9 février, vendredi. J'ai beaucoup observé cette semaine, comme j'imagine vous deux aussi, la neige. Ça se trouve que j'étais installée pour travailler devant les fenêtres, donc j'avais vu une grandeur nature dans mon jardin sur la neige. Et ça m'avait fait penser combien pour moi la neige est similaire à l'assise. Mon expérience quand je suis assise ressemble à la neige. Dans le sens, je vais expliquer parce que c'est peut-être un peu obscur ce que je dis, mais la neige tombe et couvre tout sans discrimination. Et les formes, les couleurs, les différences, les textures, les tailles, etc., sont réduits à une couverture blanche avec la neige. Évidemment, différentes plantes, différents arbres, différentes voitures, les sacs poubelles, les choses qui sont les caniveaux, toutes les bancs publics, etc. Tout est couvert de neige et on peut quand même distinguer parfois les formes. Mais ce qui est mis en évidence n'est pas les formes, mais l'absence de distinction. Parce que la neige, c'est égal, tout est réduit à égal, tout est blanc, tout est silencieux. Tout ce qui est criant, qui est machination, toutes les tentatives de se sortir de l'eau, disons, est couvert par cette couche de neige. Et il y a quelque chose de très apaisé et apaisant dans ça. La ville était apaisée. Bien sûr qu'il y avait tous les problèmes de transport et toutes les frénésies autour de ça. Mais une partie de raison que c'était frénétique et il y avait cette frénésie, c'est justement parce que nos façons habituelles de fonctionner ne marchaient plus. Tout était éteint. Et c'était étonnant de regarder la rue devant ma maison le matin. Après la grande neige, c'était quel jour? C'était mardi?
Mercredi, non,
mercredi? Mercredi. La nuit de mercredi à jeudi, c'est ça? Quand les gens se sont fait coincer sur l'autoroute et tout ça, c'était mieux.
Non, celle de l'avant. Je ne sais
plus. Enfin bref, ce matin-là, quand je me suis réveillée, c'était étonnant, le silence qu'il y avait dans la rue et les gens qui marchaient. Et personne n'avait l'air affairé par ça. Ce qui m'avait surpris aussi, c'est que le nombre de personnes qui avaient des chaussures adéquates pour ça m'avait surpris parce que on ne voit jamais ça à Paris. Ou très peu, il y a quelques gens, mais je me suis dit, mais d'où ils sont sortis tout ça? Et pourquoi ils ont tout ça? Est-ce que tout le monde va à la montagne? C'est pour ça qu'ils ont des chaussures correctes pour ça? Il y avait évidemment des gens qui n'étaient pas du tout chaussés d'une façon adéquate. Il y avait des gens heureux, généralement les enfants. Il y avait de tout, mais tout le monde était rendu égal par la neige. Chacun avait sa façon d'agir face à ça, mais c'était neige. Il n'y avait pas de choix, on ne pouvait pas choisir. Alors, pourquoi je dis que ça ressemble à la méditation? Parce que c'est ce qui se passe dans la méditation aussi. Enfin, ce qu'on appelle méditation. Moi, je l'appelle rarement la méditation, mais dans l'assise, c'est ce qui se passe aussi. Tout est réduit à l'équivalent d'une couche de neige qui le couvre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui se passent qui sont différentes, les différentes manifestations, les différentes pensées, les sensations, les émotions, etc. Mais si je suis là, juste à laisser être, c'est l'équivalent de laisser les neiges tomber. Et c'est comme le banc public est toujours banc public, mais c'est couvert de neige. Et en moi aussi, c'est pareil. Le banc public en moi est toujours banc public, mais c'est couvert de cette assise, ou par cette assise. Et c'est pour ça que c'est apaisant aussi. C'est que c'est, on dit que oui, les gens ils veulent faire la méditation parce qu'ils veulent relaxer, ils veulent être en paix, paix d'esprit, etc. Mais c'est pour ça que c'est paisible. C'est parce qu'on n'est pas en train d'essayer de distinguer telle ou telle chose, à s'accrocher à telle ou telle chose, à mettre en avant quelque chose plutôt que d'autre chose. Dans mon jardin, la perspective du jardin est complètement changée par la neige. Les plantes qui étaient, il y avait une espèce de bosquet avec du bambou qui est complètement aplati par la neige. Et donc on voit un trajet vers le fond du jardin qu'on ne voyait pas. Parce que... Et puis d'autres perspectives sont plus visibles parce que les branches sont complètement prises par la neige. Et donc c'est obscurci une perspective qu'il y avait avant. L'herbe, on ne le voit plus. Les cailloux, il y a toute une partie de gravier, on ne voit plus le gravier, c'est blanc. Il y avait même un paire de chaussures de jardin qui n'étaient pas vraiment en plein exposé, mais je pense que parce qu'il y avait du vent, il y avait des petits tas de neige sur ces chaussures de jardin. Il y a tout un tas de bouteilles qu'on doit amener pour recyclage qui sont là. Et toutes les bouteilles, c'est comme s'ils avaient des bouchons. Mais en neige comme ça, haut comme ça. C'est magnifique. C'est transformé. Ça me fait penser aussi à le maître, un des grands maîtres zen du XXe siècle, Suzuki, qui était à San Francisco dans les années 60. Quand il y avait toutes les hippies et toute la psychédélique, toutes les drogues, les fleurs, les longs cheveux, les barbes, les bijoux, les colliers, etc. Et toutes ces jeunes, ils venaient faire des méditations et quand ils s'engageaient, etc., Suzuki les encourageait, ceux qui voulaient, de devenir moines et donc de s'habiller en noir et raser leur crâne, raser les barbes, etc. Et il y en avait qui, quelqu'un avait demandé, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Et lui, il disait, parce que quand vous êtes... Quand vous vous rasez la crâne, vous habillez tous en noir, je peux voir chacun exactement tel qu'il est. Tandis que quand vous êtes tous avec vos barbes et les longs cheveux et les colliers et les jupes tout colorées, etc., etc., vous avez l'air tous pareils. Et c'est intéressant. Mais c'est un peu comme la neige, dans ce sens que la neige réduit tout au blanc, mais on voit vraiment les individualités, curieusement. Mais pas les individualités que on voit quand on est en train de se distinguer et se mettre en avant, ou quand on va s'accrocher à telle ou telle chose, etc. J'ai vu ces bouteilles de vin. Curieusement, ils étaient tous différents, avec leur petit chapeau blanc. Tandis que, quand ils n'avaient pas ça, ils avaient les étiquettes différentes, les couleurs différentes, les formes même. Il y avait des bouteilles comme du Bordeaux, il y en avait de Bourgogne, etc. Ou je crois qu'il y avait même des bouteilles de bière, d'huile d'olive, je pense même. Je n'ai pas remarqué. Mais là, avec leur petite couverture blanc, c'est remarquable. Et curieusement aussi, c'est que moi j'ai grandi dans un pays, dans un endroit où il y avait beaucoup de neige tout le temps, tout l'hiver. Et l'hiver durait du mi-octobre fin mars, donc c'était long et froid. Il y avait beaucoup de neige. Et mais on s'habituait jamais. Je pense que les adultes, c'était fatigant et pénible parce qu'il y avait des voitures, il fallait chauffer des voitures, il fallait nettoyer les pare-brises, il fallait dégager les routes, les trottoirs, etc. Les enfants, il n'y avait rien de tout ça et c'était... on adorait ça. Mais chaque fois qu'il neigeait, c'était nouveau. Et ici, c'est quelque chose de plus nouveau, donc quelque chose de plus nouvelle, parce que ça ne nous arrive pas souvent. Au même temps, même si ça arrive souvent, c'est nouveau, je dirais. Et c'est pareil avec l'assise. C'est nouveau à chaque fois. C'est comme une nouvelle tombée de neige. À chaque fois. Bon, évidemment, on oublie ça, parfois. Et on se fait prendre par nos habitudes mentales, s'accroche à telle ou telle pensée, et puis il y a d'autres choses qui s'accrochent à ça, et puis ça devient un TGV qui ne va plus, on ne se voit plus. Mais on a cette possibilité à chaque instant à revenir à cette tombée de neige. Et c'est ça, Suzuki, c'est celui qui parlait de l'esprit du débutant, et c'est ça dont il parlait. C'est cette nouveauté. Là, quand j'étais juste assise ce soir, je crois que c'est parce qu'il fait froid, il y a de la neige. Ça me fait penser, ça me rappelait la première fois que j'ai fait une retraite d'une semaine, et c'était il y a 25 ans, et c'était dans le nord de l'Angleterre, presque à la frontière avec l'Écosse, dans le, ce qu'on appelle le Lake District. C'était en décembre et il y avait beaucoup beaucoup de neige et il neigeait. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça dans ce coin. En tout cas. Et donc c'était un peu cette ambiance. Mais ce que je voulais dire, c'est que le soir, à la fin de... Donc on se levait, je crois, à 6 heures du matin et... On terminait à 21h30, j'imagine, je sais pas. Et après, le soir, il y avait quelques personnes qui restaient dans le Zendo. Et moi, j'ai vu ça et j'ai dit, ah, tiens, chouette. J'adorais tellement m'asseoir. Et donc, je me suis mis à faire ça aussi. Je restais dans le Zendo le soir, après 21h. Je ne sais pas pendant combien de temps, je pense que j'avais mal aux jambes, donc probablement c'était pas très très tard, mais c'est quelque chose qui que j'ai très peu fait après cette première retraite. Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'est venu ce soir quand on était là. J'avais ce même goût, ce même parfum de ce que c'était l'assise à ce moment-là et ce qui m'enchantait. Et c'est pas un enchantement, comment on dit, cucu, dans le sens... oh, c'est chouette, regarde, c'est joli, etc. C'est pas ça. C'est comme un enchantement existentiel parce que je pense qu'on se remet en contact avec quelque chose de l'essence quand on s'assoit. Et je crois que c'est enchantant, ça. Parce qu'il y a une connexion qui se fait. C'est un peu comme si... on travaille sur un problème de maths ou si on travaille sur les mots croisés ou comment ça s'appelle, un jigsaw puzzle, un puzzle où il y a beaucoup, oui, des puzzles où il y a beaucoup beaucoup de pièces, il peut y avoir 1000 pièces, et on trouve le morceau. C'est ça dont il s'agit. C'est une sorte d'enchantement parce que c'est une connexion qui s'est faite. Il y a une sorte d'apaisement parce que les choses sont en ordre. Et je pense que la neige, il se joue quelque chose comme ça avec la neige. Tout est... settled, on peut dire settled. Tout est je veux dire en paix, mais c'est pas un jugement positif ou négatif, c'est comme quelque chose qui est une tourbillon comme ça et puis ça se calme. Ou ça se pose peut-être, tout est posé peut-être, c'est ça. Alors attention, je ne veux pas dire que c'est toujours comme ça pour moi dans mon assise. C'est pas, je ne veux pas du tout donner la fausse impression que tout est toujours ainsi, parce que si tout était toujours ainsi, ce sera figé. C'est la mort. C'est comme c'est plutôt que quand quand il y a un laisser être plutôt qu'un essayer de faire. Ou forcer à être. Ou ne pas être. Quelque chose comme ça. Et nous avons un magnifique histoire zen. Il s'agit de la neige. Puis on a plusieurs, enfin, il y en a d'autres, mais c'est un des plus célèbres. C'est le Layman Peng. C'était un personnage qui n'était pas monastique, qui n'était pas un moine, mais qui était qui pratiquait assidueusement avec sa famille. Et fréquenter les grands maîtres et les monastères, et là on parle de Chine au 8e siècle. Et à un moment, il avait fait un séjour dans le monastère d'un grand maître, et quand il allait partir, il était accompagné par un comité de jeunes moines qui était envoyé par le maître pour l'accompagner. Qui était un signe de respect. Et quand ils arrivent à la porte à l'entrée, il neige beaucoup. Et ce fameux Peng dit magnifique flocon de neige, il ne tombe pas dans un autre endroit. Et un des moines avance et il lui dit alors où est-ce qu'il tombe, où tombe-t-il alors les flocons de neige, et il pingue le gifle, et le moine dit même un laïc ne devrait pas être si grossier, parce qu'il y avait une hiérarchie. Les laïcs étaient censés être des gens bons à rien, des un peu grossiers, et les moines beaucoup plus sophistiqués, polis, etc. Et Peng le gifle de nouveau. Et non, il lui dit vous dites que vous êtes un moine zen, mais vous, je ne sais pas exactement comment on peut traduire ça, mais c'est quelque chose du genre, mais vous êtes toujours tenu par le roi de la mort. Et le moine dit, alors vous dites quoi? Et là, il le gifle de nouveau. Et il dit, Peng lui dit, vous regardez sans voir et vous parlez sans dire, sans rien dire. Oui, vous regardez sans rien voir et vous parlez sans rien dire. Alors, ce qui est intéressant dans cette histoire, d'abord, on pouvait s'arrêter simplement avec merveilleux flocon de neige, il ne tombe pas dans un autre endroit. Parce que tout est dit là. Chaque flocon de neige est différent, on sait. Merveilleusement différente. C'est inouï. Que chaque. C'est des petits cristaux et ils sont. Chacun différent. Et chacun tombe pile à sa place. Il ne tombe pas dans un autre endroit. Et pile à sa place, c'est ici, maintenant. C'est juste ici. Alors, quand le moine demande ça, où est-ce qu'il tombe alors? c'est qu'ils ne comprennent pas. Ils n'entendent pas ce que ça veut dire. Ils le giflent. Bon, aujourd'hui, on ne fera pas ça. Mais c'est une sorte de rappel à juste ce qui est, pour ainsi dire. Si le moine il avait vraiment ses yeux ouverts et vraiment sa bouche ouverte, ce sera plein de neige. Il sera juste ici avec ce qui est. Il n'aura pas à poser les questions où est-ce qu'il tombe les flocons de neige. Mais il est en train de calculer, à penser, à distinguer. Donc il fait cette remarque à propos de la loi de la mort parce que il est et le moine fait cette remarque à propos de les monastiques et les laïcs parce qu'il est toujours dans une dualité de séparation de ici et là, cet endroit et un autre endroit. Et il ne voit pas l'unité de la neige, en fait. Il ne voit pas. Et donc, les gifles, c'est une façon pour Pang d'essayer de le ramener à ça. Mais on pouvait, comme j'ai dit, on pouvait s'arrêter juste avec la première phrase. Parce que tout est dit. T'es dit, moi je n'ai pas d'autre chose à dire, je pense à propos de la neige. Mais vous avez peut-être des choses à dire, ou des questions, ou est-ce que ça vous évoque des choses ou... ou à propos d'autre chose aussi, hein, c'est pas juste la neige.
J'ai l'impression que qu'on peut rien dire en fait après l'histoire de l'œil dans le pain.
Ouais. Un peu. Et pourquoi ?
Je pense parce que les trucs peut-être qui me viendraient ou que j'aurais à dire sont du même ordre que ce que le moine dit à Pan. Et qu'en fait, je me dis, mais en fait, c'est pas la question qu'il faut poser. Enfin, c'est pas qu'il faut pas, c'est que. Que j'ai pas besoin de poser la question, en fait.
C'est un effet de neige, quoi. C'est fou. C'est ce silence dont on parle quand il y a des écoles zen qui parlent d'illumination silencieuse. Et c'est ça dont il s'agit. C'est ça. et cette silence-là. Parce que c'est... Tout y est, enfin, et rien n'y est.
Ce qui est curieux peut-être, c'est que mais c'est peut-être encore une remarque du même ordre, mais voilà, c'est il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien d'autre à dire, et pourtant, on n'y est pas tout le temps. C'est bizarre comme contradiction quand même. Il n'y a rien à faire, et pourtant, si je fais rien, j'y suis pas.
Non, c'est vrai. Et si je fais trop? Non plus. C'est vrai. J'ose aventurer l'hypothèse qui viennent de mon expérience et mon observation des autres et mes études, etc., que comment dire, que effectivement, si on ne fait rien, non, on ne va pas expérimenter cette rien n'est ou tout est, etc. Et en même temps, donc si on pratique, entre guillemets, parce qu'on nous parle de ça comme la pratique, on est en train de cultiver ce terrain en nous. Et ça devient plus fréquent, plus notre comment dire, notre capacité peut-être est affinée, et donc on a c'est plus facilement accessible. Et je ne veux pas que je donne l'impression de quelque chose d'utilitaire dans ça. Mais c'est un fait. C'est comme, bon, il neige beaucoup, et puis il y a le soleil et ça fond, et puis ça devient froid de nouveau et ça gèle et ça, c'est les glaces, et puis le soleil, ça va fondre de nouveau. C'est quelque chose de cet ordre là c'est quelque chose d'organique qui se passe, et on a du mal, on dit on a du mal à goûter à ça, parce que on passe tellement de temps à faire d'autres choses, et donc on est... Ce qu'on pratique, c'est l'autre chose. On pratique une autre attention qui n'a rien à voir. Et on est attentif à moi-je, on est attentif à les conflits, les séparations, les différences, les les choses matérielles, obtenir, accomplir, etc. Et au dépend de cette autre façon d'être. Et donc, c'est pratiquer comme on fait, c'est une tentative d'équilibrer, disons, les choses, plutôt que de juste mettre toute l'emphase sur cet autre aspect et ces autres qualités qu'on a, etc. On essaie d'équilibrer et mettre plus mettre plus d'emphase sur d'autres choses. Et effectivement, plus on le fait, plus c'est cultivé, plus c'est accessible.
Je pense que c'est pas possible de garder ça ou de pratiquer ça aussi dans l'activité quotidienne, tu vois, de garder cette attention particulière là, la même que celle qu'on cultive dans l'assise.
Si, mais bon, le même, je sais pas, mais comme les circonstances sont différentes, c'est différent. Mais si, tout à fait, je crois que c'est comme un danseur qui est entraîné, un danseur de haut niveau, etc., est entraîné, et la façon qu'il porte son corps et qu'il bouge va se manifester dans ses actions de tous les jours, c'est sûr. Mais c'est pas la même chose que quand il est en scène et quand il fait son numéro. Et nous aussi, ça imprègne notre vie, c'est sûr. Oui. Oui, oui. Pour le cultiver, par contre, il est nécessaire d'avoir cette pratique de cultivation. De s'entraîner avec l'assise. C'est comme donner de l'eau aux plantes. C'est une sorte de... Ça nourrit, peut-être, quelque chose comme ça. Et peut-être, bon, moi je parle de mon expérience. Il y a peut-être des gens qui ont ce genre d'attention dans la vie de tous les jours sans pratiquer de la méditation. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je ne pourrais pas, franchement. Je ne pourrais pas. J'ai besoin de cet entraînement, quoi, disons. Et cet entraînement aussi, effectivement, il y a l'activité de non-activité qui est importante dans cette assise, de ne pas bouger de cet instant, c'est important cet entraînement. En même temps, ce qui est important, c'est presque à notre insu. C'est le fait de se consacrer à d'autres choses que ce qu'on fait habituellement. De sortir de notre habitude, bon, ce soir par exemple, plutôt que de juste être là en train de regarder une série à la télé ou aller au café avec des amis, qui n'est pas, il n'y a rien de mauvais dans ça. Mais on a choisi de faire ça. Ça nous sort de notre rail habituel. Et ça, c'est bon. C'est bon pour l'autre activité aussi. C'est c'est sain, c'est healthy, disons. C'est un peu comme c'est bien d'ouvrir les fenêtres dans la chambre, dans notre maison, pour errer, quoi. Et donc, le fait de prendre un pas à côté et faire autre chose, ça, c'est bon. C'est bon parce qu'on va cultiver cette présence, mais c'est aussi bon vis-à-vis des autres choses qu'on fait et nos relations avec les autres, etc. Dans un couple, par exemple, c'est très bien si des partenaires ont chacun leurs activités. Bon, ils font beaucoup de choses ensemble, ils partagent plein de choses, heureusement. Et c'est important d'avoir des projets, des activités, des choses qu'on fait ensemble. Mais c'est aussi important pour que chacun a ses choses qu'il fait. Même si c'est, bon, il y en a un qui aime bien lire la science-fiction et un autre qui aime bien lire les livres d'histoire, enfin, je sais pas. Il y en a un qui aime faire du patin roulette et l'autre de poterie, je ne sais pas. C'est... Bon, mais on va peut-être s'arrêter là, parce que...